Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez, votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'étude des commentaires des Pères de l'Église sur les Évangiles, sur l'évangile de Saint Matthieu, il nous reste le dernier chapitre de Saint Matthieu, au chapitre 28, à peu près deux cours. En deux cours, je devrais avoir terminé avec cet évangile selon Saint Matthieu. Cela vous donne un peu une idée de la richesse extraordinaire des Pères de l'Église. Vous devez bien comprendre que je vous donne qu'une toute petite portion de ce que disent les pères. J'ai pas le temps de couvrir tous et chacun des pères de l'Église. Et cela vous montre cette richesse extraordinaire des pères. Imaginez simplement, alors que je ne prends encore une fois qu'une toute petite partie des pères de l'Église, et bien simplement pour l'évangile selon Saint Matthieu, eh bien, cela m'a pris, comptant l'introduction, les quatre conférences d'introduction, eh bien, cela m'a pris pratiquement 2 ans, raison d'une conférence par semaine. Mais cela, j'espère, vous aide à comprendre l'importance des pères. Ayez l'esprit, connaissez les pères de l'Église sur les commentaires des évangiles et vous garderez l'esprit d'Église. Vous serez protégé, je dirais succinctement, vous serez protégé presque naturellement parlant contre le modernisme. Donc en tout, ça fera à peu près 94 conférences d'une heure. Alors travaillez, étudiez, travaillez. N'oubliez pas encore une fois, mes bien chers frères, n'oubliez pas les conseils de Saint Pédis pour lutter contre le modernisme. Pour lutter contre le modernisme, il faut d'abord lutter contre les racines du modernisme. Rappelez-vous les trois racines du modernisme, qu'est-ce qui donne? L'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Donc, pour lutter contre le modernisme, 3 vertus nécessaires, contre l'orgueil, l'humilité et l'obéissance, contre l'ignorance, l'étude de Saint Thomas d'Aquin, l'étude des pères de l'Église, l'étude des grands docteurs, surtout des grands docteurs antilibéraux du 19e siècle, autour de Mgr Gaume, Mgr Juin, Mgr de Ségur, l'abbé Barbier, donc Guéranger, Louis Veuillot, etc. Et puis pour lutter contre l'amour des nouveautés, eh bien il faut le respect, l'amour de la tradition de l'Église. Alors reprenons donc cette étude de la fin de l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous en sommes au chapitre 28. C'est l'Évangile qui va parler de la résurrection, puis des apparitions, certaines des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection d'entre les morts. Chapitre 28, Saint Matthieu, sur le polycopier, à partir de la page 35. Donc voici les premiers versets, versets 1 à 7. Le sabbat étant passé, lorsque le premier jour de la semaine commençait à luire, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, elle renversa la pierre et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. À cause de lui, les gardes furent atterrés d'effroi
Et le verbe corps mort, mais l'ange prenant la parole dit aux femmes, ne craignez point vous, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur avait été mis. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité, voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai prédit. Beaucoup de choses à noter sur cette partie d'évangile. D'abord, un peu d'humilité pour nous les hommes, parce qu'on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va d'abord apparaître aux femmes. Il va apparaître à sa mère, bien sûr. Tous les pères de l'Église disent que notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à sa Sainte Mère, en premier lieu après sa résurrection, même s'il n'y a rien dans l'Évangile. Il n'y a pas tout dans l'Évangile. Eh bien, le bon Dieu n'a pas voulu que ce qui s'est passé entre lui et sa Sainte Mère, entre le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, soit rendu public. Il y a des choses qui doivent être gardées dans le secret du bon Dieu. Mais il est allé voir sa mère d'abord, c'est sûr. Puis, Sainte Marie-Madeleine, les plus grandes saintes de toute l'histoire de l'Église. Et les hommes, souvent, me disent, vous savez, pourquoi pas les hommes? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas d'abord allés assister à... comment se fait-il qu'ils ne soient pas d'abord allés voir Saint-Pierre, qui est devenu le premier pape? Ça aurait été plus logique. Saint-Pierre, il s'est sauvé comme un lapin au moment de la passion. Et il a trahi trois fois notre Seigneur. Alors, soyons pas étonnés si notre Seigneur Jésus-Christ apparaît d'abord aux femmes. Un autre point qui me semble important, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ apparaît aux élus ou à ceux qui ont reçu des grâces particulières et qui vont devenir élus, même s'ils ne le sont pas encore. Et il apparaît aussi d'une certaine façon mauvais, mais pour leur malheur. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, et on ne sait pas, ce n'est pas vraiment dans l'Évangile, est-ce que les soldats romains qui gardaient le tombeau, est-ce qu'ils ont vu la résurrection? On ne sait pas, enfin ils ont moins vu les effets de la résurrection, ils ont vu l'ange qui est arrivé, qui a bougé la pierre tombale. Et quand ils sont relevés de leur effroi, de leur terreur épouvantable, ils sont aperçus que le tombeau était vide. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ apparaît donc d'une certaine façon à ses ennemis, mais pour leur terreur. Alors qu'au contraire, il apparaît aussi à ses amis, comme Sainte Marie-Madeleine, mais cette fois-ci, il va apparaître à ses amis, soit directement, soit par l'intermédiaire des anges, cette fois-ci pour les rassénérer, pour leur redonner la paix. Alors ici, dans ce premier texte que je viens de vous lire, on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser un ange. Puis plus tard, il va apparaître aux saintes femmes. Ce sera les versets suivants, verset 9 du chapitre 28. « Voici que Jésus vint au devant des saintes femmes, en disant « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Et tout de suite, notre Seigneur les rassure, ne craignez point. Alors que, quand il apparaît d'une certaine façon aux soldats qui gardaient le tombeau, il ne dit pas, ne craignez pas. Il les laisse dans leur terreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Notre Seigneur rassure l'âme qui le cherche. Notre Seigneur Jésus-Christ terrorise l'âme qui cherche à fuir la vérité. Voyons donc un petit peu ce que disent les pères sur ce chapitre 28, on est à la page 35. Pour une raison pleine de sagesse, le jour vient après la nuit, car par la foi en la résurrection, nous passons des ténèbres du péché et de l'ombre de la mort à la lumière de la vie. Par l'effet de la grâce de Jésus-Christ, Dieu éclaire ce jour pour lui donner la splendeur qui convient au jour du Seigneur et le faire briller dans toute l'Église, ainsi que dans la synagogue. Il était couvert des ténèbres que les Juifs répandaient autour de lui. Donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui le cherchent, est lumière. Mais pour ceux qui cherchent à l'éviter, il est nuit, il est obscurité. Donc posons-nous la question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, pour moi, est la lumière du monde, ou est-ce qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ, pour moi, et l'obscurité, parce que je ne veux pas ouvrir les âmes, les yeux de mon âme. On peut comparer avec la lumière du soleil. Si on regarde la lumière du soleil directement, On est aveuglé, on ne voit plus rien. Si au contraire, on prend certaines précautions pour regarder la lumière du soleil, à ce moment-là, elle éclaire, elle illumine, elle réchauffe. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, si je prends le moyen de le regarder par le biais de l'humilité, eh bien, cette humilité sera comme un verre dépoli ou un verre fumé qui va masquer le trop-plein de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et je vais pouvoir le contempler. Si au contraire, j'essaie de regarder notre Seigneur Jésus-Christ directement dans mon orgueil, à ce moment-là, je suis non pas éclairé par lui, mais je serai aveuglé par lui. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ éclaire ceux qui le cherchent, aveugle ceux qui cherchent à le tuer, comme les Juifs qui cherchaient à tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ éclaire les humbles, il aveugle les orgueilleux. Alors Marie-Madeleine va venir avec l'autre Marie, Marie Cléophas ou Marie Salomé. Elles viennent toutes les deux pour chercher notre Seigneur Jésus-Christ et se poser la question sur le chemin du sépulcre, mais qui va nous enlever la pierre? Et pourquoi elles sont venues au temple? Elles sont venues au sépulcre pour finir toutes les cérémonies habituelles qui étaient faites par les Juifs pour les défunts. Il fallait terminer l'embaumement. Un premier embaumement avait été fait très rapidement dans le tombeau le vendredi saint au soir, mais il fallait venir terminer cela. Le simple fait que les saintes femmes soient venues terminer les œuvres d'embaumement prouve qu'elles ne croyaient pas en sa résurrection. Et pourtant, Dieu leur avait dit plusieurs fois, je ressusciterai le troisième jour. Elles ont perdu la foi. Mais elles cherchent Dieu, elles continuent de chercher Dieu. Vous voyez, toute la différence entre Sainte Marie-Madeleine et Sainte Femme qui cherchent Dieu et les soldats qui sont devant le tombeau, qui sont témoins de la résurrection et qui ne vont rien trouver de cette résurrection. Donc cette résurrection ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ouvrent pas leur cœur à la grâce du bon Dieu. Au contraire, Sainte Marie-Madeleine qui, elle, ouvre, cherche Dieu, va recevoir immédiatement la paix dont elle va avoir tant besoin. Voilà ce que disent les pères. La femme accourt le soir pour obtenir son pardon, elle qui avait couru le matin vers le crime. Donc, avant sa conversion, Sainte Marie-Madeleine vivait dans le péché jusqu'au cou. Mais après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, elle se précipite vers notre Seigneur Jésus-Christ et et justement, à cause de cette lumière, sa gloire de sa résurrection, elle court vers lui d'un cœur tout léger parce que Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Elle se hâte. Elle avait puisé dans le monde l'esprit d'incrédulité et elle se hâte de venir puiser la foi au sépulcre du Sauveur. Elle s'efforce d'arracher la vie du sein même de la mort après qu'elle ait trouvé la mort au sein même de la vie. Quelle phrase magnifique des pères. Sainte Marie-Madeleine s'efforce d'arracher la vie du sein même de la mort, près du tombeau de notre Seigneur, après qu'elle ait trouvé la mort au sein même de la vie. Elle vivait dans le péché, elle vivait donc dans la mort spirituelle, et là, depuis qu'elle a trouvé la foi, eh bien, elle va au tombeau de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour retrouver la vie spirituelle. Ces femmes, appelées toutes les deux Marie, le texte dit Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elle précède les apôtres et porte pour ainsi dire le symbole des églises au tombeau du Seigneur. Marie est le nom de la mère de Jésus-Christ. Ce même nom est porté simultanément par deux femmes comme figure de l'unité de l'église qui est composée de deux peuples, c'est-à-dire des juifs et des gentils. Donc les deux Marie, attention, la deuxième Marie qui est là n'est pas la Sainte Vierge Marie. Hein. La deuxième Marie qui est là, c'est Marie Cléophas ou Marie Salomé. C'est partie des saintes femmes qui étaient toujours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont restées pendant les 3 ans de vie active de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles sont restées auprès de lui pour s'occuper de tous les soins matériels. C'est elles qui faisaient la cuisine, c'est elles qui servaient notre Seigneur Jésus-Christ et qui servaient aussi les apôtres avec beaucoup d'humilité. et qui buvait en quelque sorte à longueur de journée aux lèvres même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui buvait cette vérité qui venait de celui qui est la voie, la vérité et la vie. Et les pères nous expliquent donc que ces deux femmes représentent les gentils et les juifs, et toutes les deux viennent au temple, parce que toutes les deux viennent au sépulcre, parce que toutes les deux sont appelées par notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, si les juifs et les gentils sont venus au lieu du sépulcre, eh bien les juifs, eux, vont rester dans leur aveuglement, ils ne vont pas vouloir se convertir. Marie vint au sépulcre comme au sein qui devait enfanter la résurrection, d'où Jésus-Christ devait naître de nouveau à la fois, comme il était né du sein de sa mère à cette vie mortelle, de manière que le sépulcre fermé rendit à la vie éternelle celui que le chaste sein d'une vierge avait enfanté de la vie présente. Donc de même que la vie sort du sein de notre Sainte Vierge Marie par tout simplement le mystère de l'incarnation, qui apparaît au grand jour, le jour de Noël, le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, du sépulcre fermé, qui représente aussi le sein de notre Sainte Vierge Marie, qui représente comme le sein de notre Sainte Vierge Marie, qui contient l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on retrouve la même image avec ce sépulcre fermé, dans lequel personne n'était venu auparavant. De la même façon, dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, personne n'était entré auparavant, puisque notre Sainte Vierge Marie était vierge. Elle n'avait jamais eu d'enfant avant, elle n'en a jamais eu après. Il n'y a eu que notre Seigneur. Elle est vierge avant, pendant et après. Eh bien, c'est la même chose pour le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sépulcre était vide, n'avait jamais été utilisé. Il venait d'être creusé, il a été creusé, il n'avait pas été utilisé pour un cadavre. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui sort du tombeau victorieusement, donc la pierre tombale qui est repoussée miraculeusement par l'ange, eh bien représente notre Seigneur Jésus-Christ qui passe à travers le sein de la très sainte Vierge Marie comme une lumière, la lumière qui passe à travers une pièce de verre, nous disent les pères de l'Église, mais représente le mystère de l'incarnation qui s'accomplit. Eh bien notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter avec le même corps que la très sainte Vierge Marie lui avait donné, la même âme. Le même sang, mais avec le privilège des corps glorieux. J'ai déjà expliqué tout ça. C'est une preuve éclatante donc de sa divinité d'avoir laissé intact et fermé le sein de la Vierge qui lui avait donné le jour, comme aussi d'être sorti avec son corps de ce tombeau qu'il laisse également fermé. Regardez cette beauté de ces phrases des pères. Le sépulcre fermé rendit à la vie éternelle celui que le chaste sein d'une vierge avait enfanté à la vie présente. Donc, encore une fois, méditer cette magnifique image. Le sein de notre Sainte Vierge Marie, qui est fermé et qui contient miraculeusement l'auteur de la vie, représente ce tombeau du Vendredi Saint qui contient aussi l'auteur de la vie, qui semble mort, mais qui va ressusciter glorieusement le jour de Pâques. Notre Seigneur, tout à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, selon sa double nature divine et humaine, donne tour à tour des signes, tantôt de sa grandeur, tantôt de son humilité. Ainsi, dans cet endroit, quoique celui qui a été crucifié et qui a été enseveli soit homme, cependant, tous ces prodiges qui éclatent au dehors proclament qu'il est en même temps fils de Dieu. On voit très bien que, pendant la passion elle-même, notre Seigneur va cacher sa divinité. Elle est toujours là, mais elle est cachée. Quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ flagellé, quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ couronné d'épines, quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ humilié, qu'on lui crache dessus, quand on le voit porter sa croix, quand on le voit crucifié, quand on l'entend dire « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est son humanité qui apparaît. Mais derrière cette humanité, cachée derrière l'humanité, la divinité est toujours là. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Alors cette même divinité que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu cacher pendant la passion elle-même, eh bien maintenant, elle va au contraire apparaître miraculeusement, de façon merveilleuse, elle va apparaître dans toute sa gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ rappelle, vous pensiez m'avoir tué, il va le dire aux Juifs, vous pensiez m'avoir tué, vous pensiez m'avoir écrasé. Je suis l'auteur de la vie, je suis la voie, la vérité et la vie, je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie, Il n'y a pas d'autre chemin que moi. Il n'y a pas de vie possible en dehors de moi. Il n'y a pas de vérité en dehors de la mienne. Et donc il faut méditer là-dessus. Et on voit très bien encore une fois le rôle de la Très Sainte Vierge Marie dans cette histoire-là. Très Sainte Vierge Marie, c'est celle qui contient l'auteur de la vie, qui se cache mais qui va nous apparaître. De la même façon que devant la tombe, on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ est définitivement mort, c'est ce que croient d'ailleurs Marie-Madeleine et l'autre Marie, mais en fait, il va sortir victorieusement de son tombeau. La terre tremble lorsque le Seigneur ressuscite du tombeau, comme elle a tremblé lorsqu'il était mort sur la croix, et nous annonce qu'il faut que les cœurs des hommes, pour se convertir, soient pénétrés d'une crainte salutaire par la foi que nous devons avoir d'abord en sa passion, puis en sa résurrection. On ne peut pas séparer la mort de notre Seigneur et sa résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour ressusciter d'entre les morts. Il ne veut pas ressusciter s'il n'est pas mort. Donc il faut d'abord qu'il meure. Il faut d'abord qu'il passe par les souffrances, les affres de la passion avant de passer par la gloire de la résurrection. C'est la même chose pour nous. C'est notre chemin qui nous est indiqué. Le chemin qu'a suivi notre Seigneur est le même chemin que vous et moi nous devons suivre. Nous aussi, avant de ressusciter glorieusement au ciel, dans la gloire du ciel, du paradis, il faut qu'on passe par la passion. Donc il va falloir passer par tous les degrés de la vie purgative, la vie de purification, la voie purgative, la voie illuminative, avant d'atteindre la voie unitive, la voie mystique. Et beaucoup de gens veulent prendre un raccourci et espèrent aller directement au ciel sans passer par la croix. C'est impossible. Si notre Seigneur Jésus-Christ avait trouvé pour nous un meilleur moyen que la voie royale de la Sainte Croix pour nous amener au ciel, il nous l'aurait donné. Hein. Il y a une dernière phrase en bas de la page 35 qui est splendide. Si la terre a ainsi tremblé, alors que le Seigneur ressuscité pour la justification des saints, combien plus tremblera-t-elle lorsqu'il se lèvera pour punir les pécheurs? Selon cette parole du prophète, le psaume 75, la terre a tremblé lorsque le Seigneur se levait pour le jugement. Comment pourrait-elle soutenir la présence de Dieu qui n'a pu soutenir la présence d'un ange? Et un ange du Seigneur descendu du ciel. Et donc il faut, dans la contemplation de ces mystères de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut se faire tout petit. Dieu vient, se donne aux petits, se donne pas aux orgueilleux. C'est pour ça que la plupart des hommes ont perdu la foi aujourd'hui. La plupart des catholiques ont perdu la foi. Nous sommes en 2019, le pourcentage de la foi est infinitésimal. On dit qu'en France, le pourcentage de ceux qui pratiquent la foi catholique est 2,5%. Et dans ce pourcentage, je pense qu'on compte également ceux qui pratiquent dans l'église de Vatican II. Donc les vrais catholiques, c'est infinitésimal. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est au centre du cœur des vrais catholiques. Et donc notre cœur de catholique est comme un tombeau, si vous voulez, scellé dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ dort. Donc le monde a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, c'est fini, c'est terminé, on met les gardes devant la pierre tombale et puis on attend que ça se passe. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et pour preuve, il nous donne sa résurrection. L'ange vient, bouge la pierre du sépulcre et notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Et tous les gens du monde qui regardaient, certains que notre Seigneur Jésus-Christ était définitivement mort, ben ils sont atterrés d'effroi, ils devinrent comme morts. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui cherchent Dieu, va dire « Ne craignez point. Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Encore une fois, notre Seigneur ou l'ange ne va pas dire ça aux soldats qui ne cherchaient pas Dieu. Il dit ça aux saintes femmes qui cherchaient notre Seigneur. Alors cherchons notre Seigneur, et si nous cherchons notre Seigneur, nous aurons à ce moment-là toutes les consolations dont nous avons besoin. Passons à la page 36, page 36 du polycopier. Du moment que Jésus-Christ ressuscite et que la mort est détruite, le commerce se rétablit entre le ciel et la terre. Et la femme qui avait reçu autrefois du démon un conseil de mort entend sortir de la bouche d'un ange des paroles de vie. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marie-Madeleine, ou par l'intermédiaire de l'ange, rattrape d'une certaine façon le mouvement d'orgueil de la femme La première femme, Ève, qui désobéit à la loi du bon Dieu pour toucher au fruit défendu. L'ange s'approcha, renversa la pierre. Non pas pour ouvrir un passage pour où le Seigneur puisse sortir du tombeau, mais pour prouver au contraire qu'il en était déjà sorti. Car celui qui a pu venir au monde sans ouvrir par sa naissance le sein d'une vierge a bien pu, en ressuscitant une vie immortelle, sortir du monde en laissant fermer le tombeau qu'il quittait. C'est intéressant, donc, d'après certains pères, il semble que notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, est ressuscité juste avant que l'ange soit venu, du bout de son aile, rouler la pierre tombale qui fermait très lourdement. Et ces pierres pesaient peut-être plusieurs tonnes, je ne sais pas, très très lourdes. Eh bien, notre Seigneur, en fait, d'après certains pères, est déjà ressuscité juste avant. Donc, l'ange est envoyé pour manifester publiquement cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, ça laisserait insinuer que les gardes qui étaient devant le tombeau, gardaient le tombeau, gardaient notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort, n'ont pas vu notre Seigneur ressuscité d'entre les morts. Ils ont vu que le premier effet de sa résurrection, le premier effet de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Pâques, 36 heures après sa mise au tombeau, quel est ce premier effet? Son premier effet, c'est l'ange. L'ange qui arrive et qui, du bout de l'aile, bouge la pierre. Ça montre la toute-puissance des créatures du bon Dieu qui sont à son service, et en même temps, ça montre... Et qu'est-ce qui se passe? Ça montre que l'ange veut, par ce geste, dévoiler sur l'ordre de Dieu. Il va dévoiler au monde, regardez, le tombeau est vide. Il est ressuscité d'entre les morts. Et vous aviez vu que la pierre était fermée. Les sceaux étaient toujours sur la porte, donc personne n'était venu enlever le corps de notre Seigneur. Vous allez mentir en disant au monde de Jérusalem que les apôtres étaient venus pendant que vous dormiez, ils ont enlevé le corps. C'est faux, puisque les sceaux sont toujours sur la pierre. Et regardez, ouvrez les yeux, regardez l'ange qui bouge la pierre. Et vous constaterez par vous-même que le tombeau est vide. Donc puisque le tombeau est vide et que personne n'est venu chercher le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, quelle est la deuxième conséquence? Ça veut dire qu'il est Dieu. Je vous répète cette belle phrase des pères, celui qui a pu venir au monde sans ouvrir par sa naissance le sein d'une vierge, puisqu'il a respecté la virginité de la Sainte Vierge Marie, a bien pu, en ressuscitant une vie immortelle, sortir du monde en laissant fermer le tombeau qu'il quittait. Et on retrouve la même comparaison des pères entre le sein de la Sainte Vierge Marie qui contient notre Seigneur Jésus-Christ, qui sort miraculeusement du sein de la Sainte Vierge Marie sans violer sa virginité. Eh bien, comparaison entre cet acte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et de ce même notre Seigneur Jésus-Christ 33 ans plus tard qui va sortir victorieusement du tombeau pour manifester publiquement par cette résurrection qu'il est vraiment Dieu. Cette pierre renversée signifie, disent les pères, que les mystères de Jésus-Christ qui étaient couverts par la lettre de la loi sont maintenant dévoilés, car la loi était écrite sur la pierre et cette pierre en est la figure. Et donc c'est pour cela qu'il est dit, il la renversa. Car la pierre roulée à l'entrée du tombeau était une preuve de la mort de Jésus-Christ, tandis qu'étant renversée, est une preuve, une démonstration de sa résurrection. Tombeau fermé, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tombeau glorieusement ouvert, c'est le symbole de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres phrases des pères, j'en ai mis beaucoup, il y a plusieurs pages en polycopier justement sur cette partie de l'évangile, la page presque trois pages, 35, 36 et 37, et même le haut de la page 38, sont justement des textes des pères sur le sujet de la résurrection. Parce qu'évidemment, les pères ont beaucoup parlé de cette résurrection. Autre phrase des pères, l'ordre naturel des choses est ici renversé. Le tombeau dévore la mort elle-même et non le cadavre. La demeure de la mort devient un séjour vivifiant. Nous voyons ici un saint d'un nouveau genre. Il reçoit un mort et rentre un vivant. Il était assis sur la pierre. Il est assis sans être sujet à aucune fatigue, mais comme docteur de la foi pour annoncer la résurrection. Il est assis sur la pierre pour que la solidité de cette chair puisse affirmer la foi des croyants. Donc l'ange qui est assis sur la pierre qui vient de rouler, manifeste le caractère d'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange qui est assis sur la pierre représente le docteur qui est assis sur sa chair à prêcher, qui enseigne le peuple. Donc ça représente le magistère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange posait les fondements de la foi sur cette pierre sur laquelle Jésus-Christ devait fonder son Église. Rappelez-vous la phrase à Saint Matthieu, à Saint Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc la pierre du tombeau sur laquelle est assis l'ange représente l'Église catholique. Et notre Seigneur Jésus-Christ, assis sur cette chair de vérité qui est l'Église catholique, enseigne la vérité hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. Donc cette pierre du tombeau peut être considérée comme une figure de la mort qui pesait sur tous les hommes. Et l'ange assis sur la pierre nous représente Jésus-Christ qui a triomphé de la mort par sa puissance. L'ange qui est venu annoncer au monde l'avènement du Seigneur se tient debout avec raison, déclarant par cette attitude que le Seigneur est venu pour combattre le prince de ce monde, tandis que le héros de la résurrection nous est représenté assis pour marquer que le Sauveur était monté sur son trône éternel après avoir triomphé de l'auteur de la mort. Voyez, donc, on voit les différentes étapes. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est allongé dans la tombe de sa mort, mais qui ressuscite d'entre les morts. Et à ce moment-là, il y a la première étape qu'on va voir, c'est l'étape de l'ange qui représente notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur la tombe. Et la deuxième étape, c'est notre Seigneur Jésus-Christ debout, triomphant de la mort, du monde et du péché, du démon. Aussi une très belle phrase des pères. Il était assis sur la pierre renversée. Donc, on ne dit pas que l'ange qui est assis représente notre Seigneur. Donc il était assis sur la pierre renversée qui fermait précédemment l'entrée du sépulcre pour nous apprendre qu'il avait fait tomber par sa puissance les portes de l'enfer. Les pères se demandent, mais pourquoi ces vêtements? Le texte nous parle d'un ange qui a un vêtement comme la neige, un visage clair comme l'éclair. Cela nous fait penser évidemment à la transfiguration, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au sommet du Tabor, et qui a cette voix du Père, de la première personne à sa Trinité, Dieu le Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances ». Eh bien, l'Évangile, à ce moment-là, dit bien que le visage de notre Seigneur Jésus-Christ apparaît comme l'éclair, et ses vêtements étaient d'un blanc que le foulon ne peut obtenir. Un blanc extraordinaire, comme une neige immaculée, comme un soleil immaculé. Mais là, on voit exactement la même chose, la même image, pour bien montrer que c'est la même divinité. Son visage était comme l'éclair, son vêtement comme la neige. Bon, c'est le visage de l'ange, c'est le vêtement de l'ange. Mais justement, puisque l'ange représente notre Seigneur, donc notre Seigneur Jésus-Christ va faire participer l'ange à sa divinité. L'ange n'est pas Dieu, mais l'ange représente Dieu, et donc il va avoir la même lumière d'eux, la même lumière en quelque sorte qui sort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pourquoi ces vêtements-là où il n'y a aucune nécessité de se couvrir, c'est que l'ange figure ici par avance la forme et la figure que nous devons avoir dans la résurrection alors que l'homme sera revêtu d'un corps éclatant. Donc ici, notre Seigneur, le texte fait allusion au privilège des corps glorieux. Notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite avec le même corps, mais avec un corps glorieux, attention. Donc il y aura l'impassibilité, il y aura la subtilité, il y aura la clarté, il y aura l'agilité dans tous ces corps glorieux, et donc dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit d'ailleurs très bien, à partir du texte, on voit ces mêmes privilèges dans l'ange, qui est pourtant un pur esprit, mais qui prend ici pour pouvoir être rendu visible aux saintes femmes. Donc l'ange du Seigneur prend une forme visible. N'oubliez pas que les anges sont des purs esprits, ils n'ont pas de corps. Mais là, un ange du Seigneur descendu du ciel, et s'approchant, il renversa la pierre et s'assit dessus. Donc il avait pris la forme d'un corps pour pouvoir s'asseoir. Alors Saint Jérôme nous dit que par ce vêtement blanc, l'ange nous représente encore la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ triomphant. Dans un autre sens, la foudre produit le tremblement et la crainte. La neige frappe par sa blancheur. Oui, donc la lumière et la blancheur représentent cette divinité, notre Seigneur Jésus, encore une fois, qu'on a déjà vu dans le miracle de la transfiguration. Comme le Dieu Tout-Puissant, disent les Pères, est à la fois terrible pour les pécheurs et plein de douceur pour les justes, l'ange témoin de sa résurrection doit apparaître avec un visage éclatant et des vêtements blancs comme la neige, alors que son aspect épouvante à la fois les méchants et calme les craintes des âmes pieuses. Les gardes donc en furent tellement saisis de frayeur qu'ils vont tomber la face contre terre. La crainte et l'anxiété les glacent d'effroi, parce qu'ils n'avaient pas la confiance qu'inspire l'amour, et ils vinrent comme morts parce qu'ils ne voulurent pas croire. Ils devinrent comme morts parce qu'ils ne voulurent pas croire les vérités de la résurrection. Donc encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ amène la paix, la beauté, le calme, l'amour du beau aux âmes qui le cherchent, mais va amener en quelque sorte, au contraire, le désespoir le plus contraire, le plus complet à ceux qui le rejettent. Donc posons-nous cette question toute simple, est-ce que je suis devant notre Seigneur Jésus-Christ comme Sainte Marie-Madeleine? Ou est-ce que je suis comme les soldats qui gardent le tombeau? Est-ce que si je vois notre Seigneur Jésus-Christ, je veux tomber à la renverse, complètement paniqué comme les soldats qui regardent même pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui comprennent rien de rien, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent l'homme? Au contraire, est-ce que mon cœur va être rempli de la gloire et de la joie du bon Dieu, comme celui de Sainte Marie-Madeleine a été rempli? Les soldats gardaient le tombeau par un instinct de cruauté, non par un sentiment de piété, disent les pères. Or celui que sa conscience abandonne et que le remords accable ne peut rester debout. Voilà pourquoi l'ange renverse les impies, tandis qu'il adresse la parole aux âmes justes pour les consoler. Donc les soldats sont précipités par terre, mais pas les femmes qui cherchent Dieu. C'est comme s'il disait, femme, vous qui êtes maintenant guéri, revenez trouver cet homme et persuadez-le d'accepter la foi, vous qui autrefois l'avez persuadé de suivre le chemin de l'incrédulité. Portez à l'homme la preuve de la résurrection, vous qui lui avez donné autrefois le conseil qu'il a perdu. Donc, Sainte Marie-Madeleine représente à la fois Ève qui amène le péché sur le monde et la nouvelle Ève qui au contraire amène le pardon sur le monde. Il vous précédera dans la Galilée, c'est-à-dire au sens mystique, dans le bourbier des nations, là où il n'y avait auparavant qu'erreurs ténébreuses et terrains glissants, où on ne pouvait poser le pied avec sûreté. Ne craignez pas, dit l'ange, je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité, venez, voyez le lieu où le Seigneur avait été mis, hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité, et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voilà. Voici, je vous l'ai prédit. Donc on pourrait se poser encore une fois la question, mais pourquoi est-ce que l'ange n'a pas dit ces paroles à Saint-Pierre? Eh bien, parce que Saint-Pierre a trahi, alors que Sainte Marie-Madeleine n'a pas trahi. Et donc, notre Seigneur va humilier Saint-Pierre, il va le faire attendre. Il va d'abord apparaître sa mère, d'abord apparaître aux saintes femmes, et même plusieurs fois, on voit ça dans les différents évangiles, il va attendre avant d'apparaître à Saint-Pierre. Pour que Saint-Pierre ait suffisamment d'humilité pour accepter la gloire de la résurrection. Saint-Pierre chrysologue, selon la nature, il faisait encore nuit, mais le soleil était déjà levé, car en ce jour-là, tout réjoui par la résurrection de Christ, il s'était levé avant son heure habituelle. Donc, le soleil qui se lève représente le monde illuminé par la gloire de la résurrection. La dignité de cette nuit est marquée, car selon le cours de la nature, le soir ne pointe pas vers le jour, mais l'obscurité vers la nuit. Mais le Seigneur, par la lumière de sa résurrection, rendit toute cette nuit joyeuse et brillante. Autre phrase des Pères. Moralement, le Christ se révèle lui-même avec sa grâce et sa gloire aux âmes qui se pressent au tombeau pour loindre avec leurs bonnes œuvres la pénitence et la charité. Même si Sainte Marie-Madeleine avait perdu la foi, elle est quand même venue au temple, elle est venue au sépulcre pour terminer les coutumes juives pour l'ensevelissement des corps. Donc elle avait apporté avec lui des aromates tels que les Juifs utilisaient pour envelopper le corps. certaines formes d'embaumement du corps, eh bien, ça représente les bonnes œuvres. Donc si j'ai des bonnes œuvres, la première des bonnes œuvres, évidemment, c'est la vertu de charité, si par ma charité, j'amène d'autres personnes à pratiquer cette même charité, ben, je suis comme les gens qui arrivent au tombeau pour donner la lumière du tombeau aux autres. Et donc ces bonnes œuvres vont amener en moi la vertu de charité et la transférer. Je vais être comme un petit miroir sur lequel la charité de notre Seigneur Jésus-Christ va venir se refléter. Ces femmes qui vinrent avec des aromates virent les anges, car ces âmes contemplent les citoyens du ciel avec la douce odeur de leur vertu, approchent le Seigneur par leur saint désir. Donc c'est là, à la page 37 sur le polycopier. Alors, les pères de l'Église font remarquer que, apparemment, il est probable que les saintes femmes ignoraient que les Juifs avaient posé des soldats pour la garde du tombeau, que la pierre avait été scellée. Pourquoi ? Parce que si elles avaient anticipé ces deux choses, les gardes devant le tombeau, la pierre scellée par les sceaux de Ponce Pilate, elles n'auraient pas osé venir au sépulcre par crainte de tomber dans les mains de la garde et encore moins de briser le sceau. Mais Dieu enleva tous ces empêchements de leur chemin. Apprenez donc, nous disent les pères, à œuvrer courageusement pour la gloire de Dieu et soyez assurés que Dieu enlèvera ou nous permettra de surmonter tous les obstacles qui sont sur notre chemin. Donc ne paniquons pas. Rappelez-vous l'évangile, les oiseaux du ciel qui sont nourris par le bon Dieu, les fleurs des champs qui sont vêtues d'une beauté extraordinaire par le bon Dieu. Même Salomon, le roi Salomon, n'avait pas une telle gloire dans ses habits. Eh bien, si le bon Dieu s'occupe des oiseaux des champs, et si le bon Dieu s'occupe des fleurs des champs, le bon Dieu va s'occuper de nos âmes. Et donc on pourrait se dire mais comment je vais faire, comment je vais ouvrir la porte du tombeau, il y a cette grosse pierre devant la porte, je n'ai pas la force de déplacer cette pierre, qu'est-ce que je vais faire? Œuvrez courageusement pour la gloire de Dieu et soyez assurés que Dieu enlèvera et nous permettra de surmonter tous les obstacles que je vais rencontrer dans le chemin. Notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe de moi. Notre Seigneur, dans sa miséricorde, va me donner les forces nécessaires pour bouger la pierre. Et si je ne suis pas capable de bouger cette pierre par moi-même, il enverra un ange pour la bouger. Donc de jamais, jamais se décourager. Même si mon cœur est empêtré dans le péché mortel jusqu'au cou, ben évidemment, je peux me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je arriver par mes propres forces à enlever cette pierre? Savoir se mettre à genoux et dire la parole. La parole du pauvre, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. D'autres phrases des pères à la page 37. Ici, c'est Saint Bède le Vénérable, le sens mystique. Par les femmes qui arrivent tôt le matin au sépulcre, nous avons l'exemple qu'après avoir jeté au loin l'obscurité de nos vices, nous devons venir au corps du Seigneur. Car ce sépulcre représente l'autel du Seigneur où les mystères du corps du Christ, la Sainte Messe, qui n'est pas sur la soie ou la pourpre, mais sur un pur linge blanc, le lin, identique à celui utilisé par Joseph, doivent être consacrés. Donc la venue des saintes femmes au tombeau, eh bien, cette venue des saintes femmes au tombeau, au sépulcre, représente la venue du chrétien devant l'autel qui va recevoir la présence réelle. Alors on arrive devant l'autel, tout est fermé, on ne voit rien parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore sur l'autel, ou s'il est sur l'autel, il est enfermé dans les voiles du tabernacle. Mais le prêtre va arriver, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, va prononcer les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et notre Seigneur Jésus-Christ va descendre du ciel et va venir se poser sur le corporal de lin blanc, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité, que Sainte Marie-Madeleine et l'autre Marie ont vu, vont voir quand elles vont voir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Dieu, le même homme. Le même corps, le même âme, le même sang. Attention. Donc ne jamais se décourager, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Comme il offrit par la mort pour nous la vraie substance de sa nature terrestre, nous aussi, en mémoire de lui, devons placer sur l'autel le lin d'une plante pure de la terre et parfaitement blanc, car raffiné comme s'il était écrasé à mort. La fibre de lin, pour pouvoir être utilisée, doit être broyée, écrasée plusieurs fois. Et pour que le lin trouve toute sa beauté, toute sa blancheur, il faut que ce broyage soit très profond et répété plusieurs fois. Sinon, la fibre ne peut pas être utilisée. Les aromates apportés par les saintes femmes signifient l'odeur des vertus, la douceur de la prière, qui nous permettent d'approcher le corps du Christ. Nous ne pouvons pas approcher le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, si notre âme est encombrée par le péché mortel. Donc il faut avoir purifié notre âme, bien entendu d'abord, par le sacrement de pénitence, avant d'approcher notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Malheur à moi si j'ose m'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir d'abord purifié mon âme. Alors, autre note des pères de l'Église. Le Christ supporta sa passion pendant à peu près 18 heures, depuis donc le soir du jeudi saint jusqu'à la fin de l'agonie sur la passion, sur la croix, le vendredi saint, 3 heures. Le jeudi soir, il mangea l'agneau, lava les pieds de ses disciples, institua la Sainte Eucharistie, tint un long discours sur la charité, ordonna prêtre ses apôtres, consacra évêque ses apôtres, puis partit pour Gethsémani. L'ensemble dut prendre près de 3 heures. Là, il souffrit son agonie, cria pour que les calices passent loin de lui, et jusqu'à 3 heures de l'après-midi du vendredi, cela fait un total de 18 heures. Le Christ passa 33 heures au tombeau, mais 36 heures dans les enfers. Pourquoi ? Parce que, vous me direz, mais pourquoi il y a une différence ? Pourquoi les pères disent-ils que le Christ passa 33 heures au tombeau, mais 36 heures dans les enfers ? En fait, c'est que la séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu lieu dans le tombeau, mais sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Il était déjà mort quand il était placé dans le tombeau. Entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint, 3 heures de l'après-midi, et la mise au tombeau, il s'est passé un certain temps. Il a fallu aller chercher des échelles, au moins une échelle, pour déclouer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix était haute. Notre Seigneur Jésus-Christ était élevé au-dessus du ciel, au-dessus de la terre, pardon. Quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi, avait-il dit. Donc il a fallu une échelle, il a fallu trouver des marteaux pour déclouer les mains et les pieds. D'abord déclouer les pieds, ça c'était relativement facile parce que c'était plus bas, sur le bois de la croix. Mais enfin, les pointes du clou qui avait été utilisé pour les pieds étaient retournées pour maintenir le corps en place, et donc il a fallu un marteau, des tenailles pour pouvoir enlever ces clous, puis ensuite enlever la partie supérieure de la croix, on appelle le patibulum, l'enlever de la partie verticale, le cypès, et puis avec les mains toujours crucifiées sur le bois de la croix. Donc les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ avec Joseph d'Arimathie ont porté, d'après le Saint-Suaire, il semblerait que notre Seigneur Jésus-Christ était porté depuis le Golgotha, le lieu de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au tombeau, avec les mains toujours crucifiées sur le bois horizontal de la croix, le patibulum. Et là seulement, les clous des mains ont été enlevés. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été placé sur le linceul et posé dans le tombeau. Donc ça a pris un certain temps. Là, les apôtres pensent que ça... Pas les apôtres, le père de l'Église, je ne sais pas quel est le père de l'Église qui a dit ça. Le Christ passa 33 heures au tombeau, 36 heures dans les enfers. En fait, son âme était déjà séparée du corps parce qu'il était vraiment mort dès 3 heures de l'après-midi de vendredi. Et même s'il a pris quelques heures pour transporter le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, puis le mettre dans le tombeau et après fermer le tombeau par une pierre tombale extrêmement lourde, donc il a fallu trouver des outils, il a fallu trouver encore des ouvriers ou des gens pour aider à pousser la pierre. Ça ne se pousse pas comme ça d'un coup d'épaule, hein. C'est des pierres très lourdes. Et bien donc, notre Seigneur Jésus-Christ a passé plus de temps dans les enfers que Quant au mot, je vous rappelle que ces enfers dont il est ici question, c'est l'enfer des patriarches, les limbes des patriarches, le lieu où attendaient tous les justes de l'Ancien Testament. Cela, disent les pères, doit nous aider à comprendre combien court est le temps de la souffrance des chrétiens pour le Christ et long le temps de la récompense et de la gloire. Donc, la passion est, humainement parlant, relativement courte. Le Christ supporta sa passion pendant à peu près 18 heures, disent les pères. C'est relativement court. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a l'éternité. Alors, ça ne se compte plus en heures, ça ne se compte plus en millénaires, ni en milliards d'années, mais c'est éternel. Plus de temps. On est pour toujours immergé dans la gloire du bon Dieu. Mystère absolument incompréhensible pour nous. Moralement parlant, comprenons qu'il nous faut religieusement orner les tombeaux et les reliques du Christ, des martyrs et des autres saints. Les corps des justes doivent être respectés car ils furent utilisés par le Saint-Esprit comme des organes et des récipients pour toutes les bonnes œuvres. Donc, puisque le récipient de notre âme, à savoir notre corps, a été utilisé par le bon Dieu pour faire des bonnes œuvres, j'espère, eh bien, il faut respecter ce corps. Vous voyez, c'est vraiment triste de voir le manque de respect du monde moderne pour le corps des hommes. Donc on n'a plus aucun respect pour le corps. C'est pour ça que maintenant ils veulent incinérer tous les morts, justement parce qu'il n'y a plus ce respect pour les corps. Le corps est temple du Saint-Esprit, l'âme est temple du Saint-Esprit aussi, et l'âme est la forme du corps. Donc c'est l'âme qui donne cette vie au corps. Donc puisque ce corps a été animé par une âme qui, j'espère, un jour ira au paradis, au moins pour les catholiques qui vivent en état de grâce, eh bien, ce corps qui a été animé par l'âme reçoit un honneur extraordinaire qui vient de cette union avec l'âme. Donc la terre qui tremble, c'est au milieu de la page 37 sur le polycopier, la terre qui trembla avec horreur à la mort du Christ, tressaillit de joie à la résurrection. La pierre posée sous la tombe est une preuve de sa mort, le fait qu'elle fut roulée et déplacée prouve sa résurrection. J'ai déjà vu une phrase semblable dans une autre partie des commentaires des pères. L'ange assis a plusieurs représentations symboliques selon saint Thomas d'Aquin. Il est assis, mais qu'il ne soit pas fatigué, comme docteur de la foi, maître de la résurrection, on l'a déjà expliqué. La pierre désigne la mort, qui oppresse tous les hommes. L'ange assis sur la pierre signifie que le Christ a dominé la mort par sa propre puissance. C'est pour ça qu'il est assis sur la pierre. Il est au-dessus de la mort. Il est la résurrection, donc il est assis sur la pierre qui représente la mort. Selon saint Bède le Vénérable, cela montre que le Christ est monté sur le trône de son royaume éternel et qu'il a donc détruit le pouvoir de l'enfer. L'ange apparaît pour représenter la glorieuse résurrection du Christ et son visage était comme l'éclair. Car l'éclair représente au mieux les quatre propriétés du corps glorieux du Christ et des bienheureux, la clarté, l'impassibilité, la subtilité, l'agilité. Vous avez à la fin du traité De Novissimis, donc le dernier traité de la somme théologique de saint Thomas, à la fin du supplément, vous avez justement les explications données par saint Thomas d'Aquin sur les quatre propriétés des corps glorieux. La clarté, cette luminosité extraordinaire, qui manifeste la gloire de l'âme au ciel, l'impassibilité, l'absence totale de souffrance, la subtilité, on voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ, on verra ça un peu plus tard, qui passe à travers les murs avec son corps glorieux, parce que justement il a la qualité de subtilité et l'agilité, c'est-à-dire le pouvoir de ce corps qui est devenu glorieux, de se déplacer littéralement à la vitesse de la lumière. Donc pensons à tout ça, un jour, mon âme, si je suis en état mort, je meurs en état de grâce, mon âme aura cette clarté, cette impassibilité, cette subtilité, cette agilité. Moralement, les saints, les angéliques prédicateurs doivent être comme le tonnerre et les éclairs par lesquels les vices des ennemis sont détruits. Donc l'éclair va illuminer le monde. On est dans la noirceur de l'orage, du péché, et l'éclair qui jaillit du ciel et qui va réunir le ciel et la terre, puisque l'éclair est attiré vers le centre de la terre, eh bien, c'est cette puissance de lumière extraordinaire qui jaillit des nuages chargés d'électricité représente justement ce jugement extraordinaire de Dieu qui va venir pour illuminer les recoins les plus cachés de nos âmes. D'un seul coup, tous ces recoins seront illuminés par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne pourra plus rien cacher. C'est ça le jugement général. Et même le jugement particulier. Mais au sens anagogique, c'est-à-dire par rapport à la fin des temps, les éclairs représentent le feu de la géhenne, préparé pour les juifs impies et les soldats. Car ils sont sulfureux et sentent le feu et le soufre. La géhenne brûle avec du feu et du soufre. Donc ça représente pas simplement le feu pour les juifs impies et les soldats, mais aussi le feu pour toutes les âmes des catholiques qui meurent d'un péché mortel. Tous les catholiques qui meurent ennemis de Dieu. Et ils entendront cette phrase terrible de notre Seigneur Jésus-Christ, « Éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. » La lumière éclatante, au contraire, signifie d'abord la pureté, l'innocence, la chasteté des anges, puis la joie et la gloire de la résurrection du Christ. Ève, qui conversa avec le démon, trouva la mort, mais les pénitents comme Marie-Madeleine, en évoquant les anges, obtinrent la vie. Les sorcières qui, comme Ève, conversèrent avec le démon, burent la mort, mais les pénitents comme Marie-Madeleine, qui invoquèrent les anges, obtinrent la vie. Il n'est jamais trop tard pour se convertir, jamais trop tard pour demander pardon à Dieu, tant qu'on est ici-bas sur cette terre. Une fois qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus de changement possible. Mais ici-bas, il y a le temps, il y a les grâces du bon Dieu, il y a l'usage de notre liberté, on peut changer que la grâce du bon Dieu. La femme au paradis terrestre administra la mort à l'homme. C'est Ève dont il s'agit. Mais celle du sépulcre annonça la vie aux hommes. C'est comme si le Seigneur nous disait, de la même main par laquelle le poison de la mort vous fut administré, recevez maintenant la coupe de vie. Si l'ange n'avait pas expressément nommé celui qui avait renié son maître, Saint-Pierre, n'aurait jamais osé revenir au milieu des disciples. Il est appelé par son nom, disent les pères, pour qu'il ne tombe pas dans le désespoir à cause de son reniement. C'est le texte qui fait allusion justement à Saint-Pierre. L'ange dit aux femmes, hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité. À qui d'abord? D'abord à Saint-Pierre. Voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Donc, l'ange demande aux femmes d'aller rassurer Saint-Pierre. Il va vous apparaître. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Donc vous allez le voir. Donc ça, c'est un encouragement extraordinaire pour Saint-Pierre. Parce qu'évidemment, Sainte Marie-Madeleine va d'abord aller parler à Saint-Pierre, parce qu'il est chef des apôtres. Elle va lui dire, elle a dû savoir que Saint-Pierre a trahi trois fois notre Seigneur. Trois fois, il a trahi notre Seigneur Jésus-Christ par son triple reniement, côté du feu, le jeudi saint au soir. Eh bien, elle lui dit, l'ange m'a dit que notre Seigneur Jésus-Christ vous précédera en Galilée et que vous le verrez. Donc ne vous découragez pas, il vous a pardonné. La preuve, c'est qu'il vous attend en Galilée, allez le voir. Le Dieu Tout-Puissant, là-haut de la page 38, le Dieu Tout-Puissant a permis que Pierre craigne les paroles d'une servante et renie le Christ alors qu'il était nommé pour diriger toute l'Église. On y voit la grande bonté du Seigneur qui veut que celui qui est devenu le pasteur de toute l'Église apprenne par sa propre faute à avoir compassion des autres pécheurs. Donc Saint-Pierre va devoir passer par le creuset de l'humilité. Enfin, en haut de la page 38, la Galilée représente le passage de la mort à la vie, car notre Rédempteur est déjà passé de sa passion à sa résurrection, de la mort à la vie. Il est d'abord vu par ses disciples après sa résurrection Galilée pour que nous nous réjouissions de voir la gloire de sa résurrection à condition que nous passions des vices aux hauteurs de la vertu. Le Christ apparut secrètement aux apôtres en Judée, mais publiquement en Galilée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui va apparaître aux apôtres, que ce soit en Judée ou en Galilée, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui mène son Église, qui guide son Église. Nous allons voir ça plus tard. Donc, nous avons... terminer cette première partie du chapitre 28 de Saint Matthieu. Donc, méditant sur ces paroles, encore une fois, je vous conseille beaucoup, après avoir écouté sur Internet cette conférence ou n'importe quelle conférence sur la Sainte Écriture, de relire, au moins, au minimum, de relire les textes que je viens de méditer, qu'on vient de méditer ensemble, c'est-à-dire Saint Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. Et même, si vous avez un peu plus de temps, eh bien, de relire lentement le polycopier, justement, pour nous imprégner, étudier. N'oubliez pas que l'ignorance est une des principales causes du péché. L'ignorance, principale cause du modernisme. Donc, il faut étudier, et même si vous avez le temps, je sais qu'il y a certains qui le font, ils me l'ont dit. Il faut beaucoup plus de temps, mais il y a certaines personnes m'ont dit, monsieur l'abbé, moi, j'écoute deux fois chaque conférence d'Écriture sainte. Pareil pour saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? Parce que la première, ça me donne déjà une idée. Et la deuxième, j'approfondis encore un peu plus. Il y a tellement de richesse, encore une fois, dans les Pères de l'Église qu'il faut écouter plusieurs fois les mêmes choses. Moi, j'oublie, j'ai beaucoup lu les Pères de l'Église, mais j'oublie énormément de choses. Donc, il faut constamment répéter les mêmes choses. Voilà, donc nous arrêtons pour aujourd'hui. Il y a encore un cours pour terminer cet évangile selon saint Matthieu. Après, Dieu aidant, eh bien, on étudiera l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Jean. Bon, si ça me prend encore 2 ans pour chaque évangile, j'en ai encore pour 6 ans. Il faudra que vous soyez patients. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.